l'insécurité alimentaire, ça semble presque impensable, mais c'est certainement inadmissible dans une société évoluée. Et pourtant, ça existe bel et bien, et on pourrait dire de plus en plus, et d'une façon qui ne nous surprend pas. Ça ne nous surprendra peut-être pas totalement d'apprendre que les personnes en situation de handicap en sont particulièrement victimes. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Souraya Pirali. Bonjour Mme Pirali, comment allez-vous?
Bonjour M. Beauregard, ça va très bien et vous?
Ça va bien. Vous êtes agence de défense collective des droits pour le dossier sécurité alimentaire chez Execo et votre équipe s'apprête à entreprendre une importante recherche.
Exact, c'est ça. On a débuté ce projet en janvier, un projet qu'on a appelé « Les personnes en situation de handicap ont faim ». On reçoit un financement de la Fondation Mirella et Lino Saputo, puis c'est un projet de 2 ans qui couvre tout le Québec, puis plusieurs déficiences, dont déficience motrice, auditive, visuelle, langage, intellectuel et troubles du spectre de l'autisme. Et le but est de comprendre, d'une part, pourquoi les personnes en situation de handicap, comme vous l'avez dit, sont plus susceptibles de vivre de l'insécurité alimentaire, de voir quels sont leurs besoins au niveau des ressources alimentaires, et donc pour éventuellement pouvoir faire des recommandations pour rendre les ressources alimentaires plus accessibles à cette population qui en a grandement besoin.
Tout à fait. Statistique Canada nous révèle que, en fait, 3 fois plus souvent, les ménages où une personne est en situation de handicap va se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire. On parle de 27%, ce qui est... On parle presque du tiers contre 9% de la population en général. D'abord, définissons insécurité alimentaire. Comment ça se vit? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, on peut dire de quelqu'un, cette personne vit une insécurité alimentaire?
Bien sûr. Ben, l'insécurité alimentaire, la façon dont, dont le voit Statistique Canada, par exemple, il y a plusieurs degrés d'insécurité alimentaire.
D'accord.
On va parler d'insécurité alimentaire marginale, modérée ou grave. Pour ce qui est de marginale, ben, c'est déjà l'inquiétude de manquer de nourriture ou de devoir restreindre ses choix alimentaires, notamment en raison d'un manque de ressources financières. Modérée, c'est qu'on commence à réduire la qualité ou la quantité des aliments qu'on consomme. Et grave, c'est qu'on doit sauter des repas et qu'on a un apport alimentaire réduit ou ou dans les pires des cas, passer un ou plusieurs jours sans nourriture.
Oui, d'accord. Alors, ça part de ne pas manger ce que l'on veut, puis après ça, devoir commencer à chipoter, puis faire des économies pour y arriver. Puis à la fin, finalement, on se prive de nourriture. Puis là, évidemment, l'insécurité alimentaire, c'est une responsabilité sociale pour tous, parce que ce sont des êtres humains, mais en plus d'un point de vue de société, ça a des répercussions sur le système de santé, sur la productivité, sur toutes sortes de choses. Là, c'est pas
absolument, oui.
des gens qui ne mangent pas à leur faim, que ce soit des enfants à l'école ou des adultes ou des personnes qui ont plutôt près de la fin de vie, on peut dire, tout ça, il n'y a pas de place. Quel est le facteur? Est-ce que c'est uniquement financier?
En fait, là, on en est à la première étape du projet, c'est donc de faire une recherche sur les causes de l'insécurité alimentaire. Puis on regarde, en effet, d'un côté, les raisons qui font que les personnes sur son handicap ont des revenus moins élevés.
Oui.
Donc, on regarde l'accès à l'éducation ou à l'emploi, quels sont les obstacles, puis les revenus, les programmes sociaux, est-ce que sont suffisants pour subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est un peu comme les causes du manque de revenus, mais il y a aussi, d'un autre côté, les causes des dépenses ruineuses, comme on peut dire, qui existent pour les personnes en situation de handicap, puis pas forcément pour les personnes sans incapacité. Par exemple, au niveau du logement, il y a une crise du logement, mais alors avoir accès à un logement qui soit accessible et abordable, ça devient vraiment mission impossible.
Donc finalement, on se retrouve souvent dans des logements qui ne sont pas tout à fait accessibles, donc dangereux et en plus pas abordables. Alors,
exactement.
Donc, ce qui reste pour se nourrir commence à être vraiment coincé.
C'est ça, comme on dit, le logement, c'est une dépense incompressible.
Oui.
Donc, on va couper là où on peut, notamment dans ce qui est de l'alimentaire. Par rapport aux dépenses, il y a aussi le soutien à domicile. Est-ce que les personnes ont des heures couvertes par le soutien à domicile qui répondent à leurs besoins? Par exemple, pour tout ce qui est aide à la vie domestique, de préparation de repas, de tout ça. Puis, s'ils n'ont pas les heures dont ils et elles ont besoin, là, peut-être qu'ils vont devoir payer de leur poche. Donc, ça fait des dépenses à couvrir en plus. Pareil pour les appareils techniques, tous les coûts liés aux déficiences, est-ce que c'est remboursé par la RAMQ? Est-ce qu'on doit débourser nous-mêmes pour avoir accès à ces appareils techniques-là? Tout ça, ça fait que les personnes sous son handicap peuvent avoir plus de dépenses et donc être plus à risque de vivre de l'insécurité alimentaire.
Et aussi, ça peut souvent, je pense, se reflète, les gens sont coincés à des choix alimentaires qui ne sont pas toujours sains. Les aliments hyper préparés, là, transformés, peuvent être pratiques. Ce sont souvent ceux qu'on trouve dans les magasins de première ligne les plus près de la maison, mais ça ne veut pas dire que ce sont les plus sains. Ça devient un luxe de manger sainement, là. Trouver des fruits et des légumes, c'est pas donné au coin de la rue.
Absolument, sainement et qu'il soit abordable. On parle de déserts alimentaires, mais là même, on pourrait être, par exemple, sur le plateau Mont-Royal à Montréal, puis se dire qu'on a des épiceries un peu partout, mais si elles ne sont pas accessibles, ben on se retrouve en fait dans une situation de désert alimentaire où il y a plein de dépanneurs à chaque coin de rue, mais là encore une fois, est-ce qu'ils sont accessibles ou pas? À ce moment-là, on doit se faire livrer sa nourriture, mais là, ça implique des coûts supplémentaires encore une fois. Donc, en effet, la question de l'accès physique aussi aux aliments se pose, puis des aliments de qualité et abordables.
Oui, parce que souvent, si on parle d'une situation économique, les personnes en situation de handicap sont généralement défavorisées d'un point de vue économique. Ils sont plus pauvres. Ils se retrouvent donc souvent aussi dans des quartiers où l'offre est moindre. Et là, si en plus on y rajoute une couche d'accessibilité des lieux physiques, ben là, il n'y a plus beaucoup d'options. Hein? C'est ça qui... Comment ça fonctionne, votre étude? Est-ce que les gens vous contactent ou vous les contactez? Est-ce que c'est sous forme de sondage? Comment est-ce que vous faites votre échantillonnage?
On va mettre plusieurs choses en place. D'abord, on a monté un comité de partenaires, donc parce qu'à Execo, nous, on travaille à la promotion des droits des personnes qui ont une déficience motrice, puis pour la région de Montréal. Mais là, le projet, c'est pour tout le Québec et pour plusieurs types de déficiences. Donc, on a fait un comité avec des personnes qui travaillent avec d'autres déficiences pour avoir leur point de vue, puis leur expérience. Grâce à eux et elles, on va faire un sondage.
D'accord.
Pour connaître notamment les besoins en termes de ressources alimentaires, comme est-ce que les personnes en situation de handicap ont plus besoin de cuisine collective, de marchés solidaires, de banques alimentaires, etc. Puis on va faire des groupes de discussion par déficience pour encore une fois voir quels sont les besoins puis comment faire pour rendre ces ressources alimentaires-là plus accessibles. Ça va être dans quelques semaines qu'on va commencer à travailler là-dessus, mais bien sûr... N'importe qui voudrait me partager son expérience ou qui serait intéressé à en apprendre plus sur le projet peut me contacter directement.
Donc, cet échantillonnage-là, vous allez cartographier, si je peux dire, l'insuffisance ou l'insécurité alimentaire au Québec, savoir où sont les zones les plus en difficulté. Mais en même temps, il y a aussi une question de savoir comment est-ce qu'on peut rejoindre ou aider quelqu'un qui est en situation de handicap pour pallier à ça, ou parler de banque alimentaire ou de cuisine solidaire, ainsi de suite. Ce sont des ressources, malheureusement, qu'on ne retrouve pas partout.
Exact. Puis c'est quelque chose qu'on veut regarder dans ce projet-là, qui sont un peu les inégalités territoriales aussi. C'est sûr que il y a plein d'enjeux à Montréal, mais les enjeux ne vont pas être à Montréal que dans des régions éloignées où il n'y a pas le même type d'offres en termes de services alimentaires. Donc c'est quelque chose qu'on veut regarder, quelle est la situation des personnes en région et également où là il y a des enjeux de transport qui se rajoutent encore.
Oui, voilà. Et une fois que là, c'est une étude quand même exhaustive, vous vous donnez 2 ans, donc tout ça devrait aboutir à un rapport déposé l'été prochain, dans 2025?
Ça a commencé en janvier, donc le projet se terminerait en janvier 2026.
D'accord. Mais donc, et à ce moment-là, on aurait un rapport qui serait... qu'en faire à ce moment-là? Parce que sans action concrète, la situation va malheureusement perdurer.
Exact. En fait, les livrables de ce projet, ce sont 2 plans d'action. Un plan d'action pour agir sur les causes, donc en amont, de l'insécurité alimentaire chez les personnes sous handicap, puis un autre parce que d'ici à ce qu'on résolve tous les problèmes de revenus, etc., ça risque de prendre longtemps. Puis il y a des personnes qui ont faim maintenant. Ben, le deuxième plan d'action vise à des recommandations pour rendre plus accessibles les services d'aide alimentaire.
Oui, exact, parce que c'est sûr que d'un point de vue structurel, je dirais la poussité relative des personnes en situation de handicap, ça ne se réglera pas du jour au lendemain, malheureusement. Là, c'est comme tout un tournant que la société doit prendre. Mais les solutions, peut-être, de mieux utiliser les ressources disponibles, c'est certain qu'on peut bien le croire que vous alerteriez les gouvernements à ce sujet, mais malheureusement, ce n'est pas une situation qui est en tête de liste. Hein? Assez souvent. Vous dites que si des gens veulent vous rejoindre ou des organismes qui peuvent vouloir vous contacter pour participer à cela, parce que c'est sûr qu'Execo, comme vous le mentionniez en entrée de jeu, c'est plutôt un organisme montréalais. Mais là, on veut faire quelque chose pour toute la province. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, Mme Pirelli?
Ben, les gens peuvent m'écrire donc à spirelli@execo.net ou directement à l'adresse générale d'Execo, info@execo.net ou par téléphone au 514-288-3852 poste 20. Ça me fera plaisir de discuter de ce projet-là.
Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et j'espère que tout le monde y participera parce que c'est en le sachant qu'on va être capable de le résoudre. Voilà.
Merci beaucoup, M. Beauregard.
Merci, bon été.
Merci, au revoir.